Grégoire de Tours, l'histoire des Francs et le pseudo-Frédégère. Comment connaît-on tous ces épisodes mouvementés ou paisibles de l'histoire des Francs? C'est grâce à Georgius Florentius Georgius, né en 538 à Clermont-Ferrand, issu d'une famille noble gallo-romaine. Plus connu sous le nom de Grégoire, il est nommé évêque de Tours en 573 par Sigebert Ier, le roi d'Austrasie, qui a hérité des villes de Poitiers, Tours et Vendôme à la mort de son frère Caribert en 567. Il occupe beaucoup son temps à écrire une histoire des Francs où sont rapportés les faits et gestes de Mérovée et de sa descendance. Devenu évêque de Tours, il n'en continue pas moins son œuvre d'historien. Farouche défenseur du droit d'asile, c'est lui qui refuse à Chilpéric l'entrée dans l'église de Saint-Martin où Mérovée, le fils du roi, et Brunehaut se sont réfugiés après avoir été unis par Prétexta, l'évêque de Rouen. Par la suite, courageusement, il ose s'opposer à d'autres volontés de Chilpéric. Grégoire de Tours meurt à Tours en 59. La suite de la chronologie est écrite, croit-on dans un premier temps, par Frédégère, un historien dont on ne connaît pas grand-chose. Mais un examen approfondi des textes montre que cette suite est une œuvre collective. Plusieurs auteurs mettent la main à la plume pour raconter la suite de l'histoire jusqu'en 768, de sorte qu'on attribue les extraits de cette histoire prolongée au pseudo-Frédégère.
Brunehaut apprend à Paris la mort de son roi et mari Sigebert. Chilpéric et Frédégonde sortent alors de Tournai. Ils font immédiatement saisir et emprisonner Brunehaut et ses enfants après s'être emparés de leur trésor. Mais Gondewald, un fidèle de Sigebert, parvient à faire évader le plus jeune fils de son maître, un enfant de 5 ans. Il l'emmène en Austrasie où il le fait proclamer roi sous le nom de Childebert II le jour de Noël 575. Brunehaut est envoyé dans un couvent, à Rouen. Chilpéric se retrouve à la tête du royaume. Il avait eu de son mariage avec Odovaire, Mérovée, un fils qui l'envoie soumettre le Poitou. Mais Mérovée, présent lors de l'emprisonnement puis de l'exil de Brunehaut, était tombé amoureux fou, à l'insu de tout le monde, de sa tante. Au lieu d'aller en Poitou, Mérovée s'en va au Mans, fait semblant de rendre visite à sa mère, retirée dans un couvent, et file à bride abattue à Rouen, où il retrouve Brunehaut, qui cède aux avances du jeune homme. Tous deux, tout émus, demandent à Prétexta, évêque de Rouen, de les marier. Et Prétexta, parrain de Mérovée, qu'il aime comme son propre fils, consacre en une union interdite par l'Église, en raison du degré de parenté, son filleul et la belle veuve de Sigebert, unis dans une même passion. C'est beau l'amour, mais quand Chilpéric est informé de ce mariage en 576, il arrive en colère à Tours, où les amants passent le premier quartier de leur lune de miel. À l'arrivée de Chilpéric, il se réfugie dans l'église de Saint-Martin. Chilpéric leur fait toutes les promesses du monde afin de les en faire sortir. Et tout est bien qui finit bien, puisque tout le monde s'embrasse et se congratule. Pas pour longtemps. Chilpéric et Mérovée doivent reprendre la ville de Soissons qu'un seigneur de Champagne avait investie en leur absence. La ville reprise, Chilpéric accuse Mérovée de cette guerre. Il le fait tondre et entrer au monastère de Saint-Calais, près du Mans. Brunehaut et ses filles sont renvoyés en Austrasie. Et l'amour dans tout ça? Eh bien, il brûle toujours dans le cœur de Mérovée, qui s'enfuit du monastère et tente de rejoindre Brunehaut. Mais les seigneurs d'Austrasie s'y opposent. Mérovée, trahi par les siens, devient un errant sur les chemins, suivi d'un seul compagnon fidèle à qui il demande de lui plonger dans le sein son scramasax, ce qui est fait en 578. Ainsi se termine, douloureuse et belle, cette page d'histoire qu'avec un peu d'audace, on peut classer dans l'éphémère et rare romantisme mérovingien. Revenons à Frédégonde. Les trois fils qu'elle a eus du roi Chilpéric meurent en bas âge, emportée par une épidémie. Furieuse de n'avoir plus d'héritier mâle capable de remplacer leur père, elle fait accuser de leur mort le fils que celui-ci a eu avec sa première femme, Clovis. Il est emprisonné et assassiné sur ordre de sa belle-mère, Frédégonde, heureuse de se rendre compte, dans le même temps, qu'elle est enceinte. Elle donne naissance à celui qui deviendra le roi Clotaire II. Nous sommes en septembre 584. Chilpéric, tout heureux d'avoir un nouveau fils, rentre de la chasse à Chelles, en Seine-et-Marne. Soudain, un inconnu le frappe de deux coups de poignard. Est-ce Frédégonde qui a dépêché ce sicaire? Nul ne le sait, mais certains le pensent. Est-ce elle aussi qui fait empoisonner en 595 le fils de Brunehaut, Childebert II, roi d'Austrasie? Probablement. Le royaume de Neustrie et celui d'Austrasie se retrouvent alors aux mains de deux ennemis, Frédégonde et Brunehaut. Elles vont se livrer d'incessantes batailles, cherchant à privilégier leurs enfants et petits-enfants, mues par les mêmes appétits et la même férocité que n'importe quel homme. Frédégonde s'est assuré un pouvoir sans partage en faisant étrangler, poignarder, égorger au fil des ans tout ce qui la gêne, jusqu'à ce qu'elle meure tranquillement dans son lit une nuit de 597. Brunehaut, la régente d'Austrasie, va-t-elle enfin pouvoir dormir tranquille? Point du tout. Après 1000 péripéties guerrières, elle est livrée dans la ville de Renève, près de Dijon, en 613, au fils de Frédégonde, Clotaire II. Celui-ci accuse de tous les crimes de la terre la vieille femme qui a presque 70 ans. Il l'a fait torturer pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il l'installe sur un chameau afin que ses soldats l'insultent et l'humilient. Puis, pour parachever le calvaire de l'ennemi de sa mère et signer de son nom Clotaire II, la plus ignominieuse, la plus abjecte des vengeances, il fait attacher nu Brunehaut par une jambe, un bras et par les cheveux, un cheval fougueux qui est lâché de sorte que la vieille reine meurt dans d'atroces souffrances. Ainsi, dans le galop d'un cheval fou, se termine l'histoire de Brunehaut et Frédégonde. Ainsi demeure l'horreur ultime de cette histoire qu'on pourrait résumer, par dérision, sous ce titre « La Belle et la Bête ».